Mais dans le premier chapitre, dans le deuxième chapitre, dans le troisième, et en fin de compte, ce qui prie avec Kavana, tous les mots du Sidour, et c'est la raison pour laquelle c'est très rare, parce que c'est très long. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça une fois, je me souviens dans ma communauté, il y avait un vieux rabbin qui prie avec Kavana, la Amida du jour de Kippour, et il avait besoin de toute la journée pour dire la Amida de Shachrit du jour de Kippour. Il prenait un quart d'heure pour dire tout le reste. Sans Kavana. Enfin, avec la Kavana de tout le monde, mais sans les Kavanot précis. Parce que pour arriver à suivre le cheminement spirituel des Kavanot, de l'enjambement de chaque lettre dans chaque mot, alors il faut du temps. Vous comprenez le problème. Il y a une autre règle, c'est que les Kabbalistes interdisent de prier avec cette Kavana-là, avec ce sens du mot Kavana, en dehors des rites d'Israël. Et depuis la mort du Hari, il y a eu l'indication que, et en dehors de Jérusalem. Et à Jérusalem même, on ne le permet que dans la vieille ville, et parce que ailleurs c'est dangereux. Parce que, je ne sais pas comment vous expliquer pourquoi c'est dangereux, mais vous pouvez comprendre formellement, si on prie avec Kavana, ce qu'on demande vient, mais il vient là où on est. Vous voyez ? Alors ça profite aux autres. Selon les autres, c'est les autres. Si, ben il a dit, oui, notre maître avait enseigné une fois cela, les goïms nous accusent d'être parasites, mais ils nous doivent la dîme de leur récolte, parce qu'ils ont des récoltes, ça cause la prière des juifs. Ils doivent la dîme. Vous comprenez bien que c'est comme ça que c'est. Quand une tfila obtient la bracha qu'elle demande, elle vient dans le pays où on la demande. Et alors, les Nélégoïnes ne nous donnent que si peu.
Si vous ne prenez rien, oui.
C'est vrai ?
Si moi, ils ne prenaient rien.
Non, c'est nous qui leur prenons. On a le droit de prendre le dixième de la fortune de la France. Est-ce qu'on arrive à prendre ça ? parce qu'en fin de compte, comme on le dit, toutes les richesses des Juifs, ça vient de qui ? Non, mais être averti. Ça vient de qui ? Et les richesses de Goïm, les richesses, comme on dit ça, des Goïm, eh bien, ça vient de la prière des Juifs. Alors, vous voyez qu'on est dans des situations extrêmement ambiguës. Le jour où le monde sera en ordre, les Goïm seront comme les tribus d'Israël et Israël comme la tribu de Lévi. Alors les Goïm sauront qu'ils doivent donner la dîme à Israël pour qu'Israël se consacre à son travail d'Israël, comme les tribus d'Israël donnaient la dîme à la tribu de Lévi pour qu'elle se consacre à son travail de tribu de Lévi. On n'en est pas là. Pour le moment, c'est les Juifs qui cotisent à la Magbite. Mais c'est normalement les Goïm qui devraient cotiser à la Magbite. Ça commencera à devenir sérieux quand les Goïm donneront la dîme à la Magbite. Mais c'est ça le programme.
Alors que les Russes donnent tous les bras qu'elles prisonnières là-bas, les bras des Juifs et des Américains, l'argent.
Bichlal, moi j'ai une autre thèse. Il c'est pas nécessaire qu'on soit chez eux pour qu'ils sachent que quelque part dans le monde, il y a un Israël à qui il faut donner la vie. C'est le problème. Mais c'est prévu dans les prophètes. Lisez les dernières prophéties de Jérémie, d'Isaïe, d'Ézéchiel, vous verrez que Benaharu et Lav Kolagoïm. C'est-à-dire, les Goïm enverront leur offrande à Israël. Les Goïm. Ils reconnaîtront par rapport à Israël, comme, je dis bien, comme les tribus d'Israël par rapport à la tribu de Lévi. C'était la cohérence du plan historiosophique de la Torah. Ve'atem tihuli mamnechet kohanim ve'goy kadosh. Et c'est à vous qu'on donnera la dîme. Mais vous devez vous consacrer à la Torah. Et aujourd'hui, la Magbite, ça ne marche pas très bien, parce que c'est les Juifs qui cotisent. Mais quand c'est les Goïm qui cotiseront, ça sera un peu plus sérieux. Mais vous verrez que ça arrivera. Et parce que des Juifs, on n'a pas besoin de l'argent des Juifs, on a besoin des Juifs. L'argent, on a besoin des Goïm. De toute façon, l'argent que les Juifs nous donnent, ils prennent des Goïm. Ça y est, c'est clair. C'est ça que je voulais dire. Bien. Alors, revenons à notre problème. Qu'est-ce qui pourrait exprimer le contenu de cette cabale.
C'est, pour reprendre ce que vous disiez hier, c'est que le seul commandement qui ne peut pas être un commandement, c'est d'accepter les commandements. Donc d'avoir à faire une démarche autre qu'un commandement. Alors, si cette cabana est la seule qu'il y a, c'est peut-être la démarche qui apportera
mais
le reste.
Montrez-le dans le contenu. Qu'est-ce que ça veut dire cela? J'ai bien compris. Que la kavana de Kabbalah trouve marqué Shamaïm en disant Aleph, un, trait en haut et en bas, Aleph dans le canif. Oui, dans le contenu, montrez-le. C'est très bien comme approche. Qu'il s'agit là de la kavana de Kabbalah trouve marqué Shamaïm.
Il n'y a pas une relation entre le numérique et
le mot. Le fait que c'est 13. Bien entendu, c'est-à-dire, mais ça c'est beaucoup plus général. C'est-à-dire, toute unité a 13 dimensions d'expression. Mais ça c'est un thème très très classique du langage juif. Bah, 1, ça veut dire 13. Alors, on a donné une indication pourquoi chez les Goïms, 13 c'est maléfique, alors qu'en Israël, 13 c'est pas maléfique du tout. Je crois que la seule compagnie d'aviation où il y ait la 13e rangée, c'est quand même elle là. Partout c'est 12 bis, ou les hôtels. Il y a une explication qui a été donnée, enfin, vaut ce qu'elle vaut, c'est que la catastrophe de la sortie d'Égypte pour les Goïm, c'était la veille de Pessah, le 13 de Nissan. Et que de là vient que le 13 est néfaste. Mais 13, en Israël, c'est un chiffre bénéfique. C'est le chiffre 2 qui n'est pas bénéfique. Pourquoi 2 ? Vous remarquerez cela, c'est remarquable dans l'expérience, à tous les niveaux. La dualité, mais dans le sens de la séparation. Le fait qu'il y ait Mahlok. C'est la raison pour laquelle le deuxième jour, dans le récit de la création, il n'y a pas Vayar Elohim qui tombe. Dieu a vu que c'était bon. Mais le troisième jour, il y a deux fois. Bien. Alors, qui peut proposer quelque chose? Dans ce sens-là, mais dans le contenu.
Je pense que la définition que tout ça se passe au niveau de Marseille, du Lyon, Marseille.
Comment? Comment?
On a fait un mètre de
l'État. Essayez de couler votre intuition exactement dans la forme. Qu'est-ce que ça veut dire cette Kabbalah Trom Lachut Shamaïm? Qu'elle doit s'exprimer ainsi 1, 8, 4. Et 1, ça veut dire le roi unique, le souverain unique. 8, ça veut dire en haut et en bas, le ciel et la terre. 4, les 4 dimensions de l'espace.
C'est donc unique.
Je n'ai, comment dire, bien entendu, si nous pouvions employer le catégorie de la Kabbalah, ce serait très simple. C'est pas la Kabbalah qui est difficile, c'est d'y arriver. Une fois qu'on y arrive, c'est très simple. Ça, vous avez une grande règle. Tous les commentaires donnés par les kabbalistes sont très simples. Tous les commentaires donnés par les non-kabbalistes, les rationalistes, tout ce que vous voudrez, c'est compliqué, c'est compliqué. Okay? Et ça, c'est à l'université, on vous dira le contraire. Mais votre expérience vous montrera, votre expérience le montrera que c'est ainsi. Mais j'essaierai de vous donner une formulation dans des catégories philosophiques. Mais je voulais m'enrichir moi-même et entendre une proposition. Peut-être qu'en vous disant
Le Reich ne veut rien.
Non, ça, j'ai cité. Non, on veut.
Simplement.
Un c'est Aleph. Vous avez dit Aleph 1, c'est. Bon, c'est l'unité. Hed, c'est 8. Dalet, c'est les 4. Donc, peut-être le temps. C'est plus que le temps messianique, puisque le 1, bon, c'est l'unité. C'est ce qu'il faut, le 8, toujours dire que le 8 est le 8e jour, c'est le temps du Mashiach.
Jusque là, ça va, et la suite.
Et les Dalets, c'est. Bon, une fois qu'il y a eu les deux, il y a une unité, il y a eu le temps du Mashiach.
Compliqué. Les deux premières choses, c'est très clair. À la frette, il y a un sens messianique. Que l'unité se dévoilera au 8e jour. C'est ce que tu voulais dire. Oui. C'est très clair. Maintenant, qu'est-ce que tu fais du Dalet?
Une fois que l'unité est là,
les critiques bibliques diraient le Dalet, il est en trou. Pardon? Dal. pas que ça qui sera supprimé.
Le Hall Malkout sera accepté dans les quatre directions.
Ah, ça c'est déjà mieux. Et qu'est-ce que ça veut dire être accepté dans les quatre directions?
Les goïms,
ils sont sur Terre et parfois dans le ciel. Donc, ils sont déjà dans le Hête. Et ils sont dans le Hête, dans un autre Hête. Bon, je vais essayer de vous expliquer ça en le rattachant à un grand thème du débat qu'il y a entre le judaïsme, d'une part, l'islam d'un côté, et le christianisme de l'autre. Les trois traditions, j'emploie en principe pas le mot de tradition pour parler d'islam et pour parler de la chrétienté, mais enfin c'est le langage qui m'y amène, parce qu'il n'y a pas de tradition en islam, il n'y a pas de tradition, sinon dans un sens culturel. La tradition, c'est la tradition de la prophétie. Et il y a la théologie musulmane, la théologie chrétienne, c'est d'abord de la philosophie. Ça, nous en avons parlé à un autre cours. De la philosophie greffée sur la tradition d'Israël. Est-ce que c'est clair? Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi qu'on s'explique. Et c'est le premier chapitre du Kuzari, le premier enseignement du Kuzari. Lorsque le roi des Khazars, finissant par discuter avec le représentant de l'islam, lui dit « Mais ce que tu me dis, moi je veux bien croire, mais c'est incroyable. » Tu as des preuves? Il dit, ah non, les preuves, c'est chez les juifs. C'est chez eux que ça s'est révélé. Et avec le chrétien, de la même manière, tu as des preuves, les preuves, demande aux juifs. Ah, si c'est comme ça, je demande aux juifs. Pas besoin de vous. En fin de compte, c'est ceci. L'expression « les cieux et la terre », la souveraineté de Dieu en relation au ciel et à la terre, c'est-à-dire au contenu du monde. C'est la catégorie que, en termes de philosophie théologique, on appelle l'immanence. Le fait que la souveraineté de Dieu se dévoile, se révèle, à travers et en relation pour et par le contenu du monde. Les quatre directions de l'espace, c'est la structure du monde. Et ceci renvoie à la catégorie de transcendance. Bon, voilà la formule. Et essayons d'y réfléchir pour la comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une implication de la notion d'unité du Créateur comme souverain dans les catégories d'immanence et de transcendance. Alors voilà quel est le principe juif, ici, de cette Gemara. L'accent doit être mis sur la transcendance, mais sans mettre entre parenthèses l'immanence. C'est bien clair jusque-là? Et puis après, j'explique. Je vais vous donner une comparaison, une comparaison que nous avons étudiée dans un autre texte. C'est la notion de Hakadosh Baruch Hu. L'expression que vous vouliez employer lorsque vous avez dit Baruch Hashem, okay?
Oui.
C'est le Hakadosh Baruch Hu. Ces deux notions se réfèrent à ces deux dimensions de souveraineté dans la relation entre celui qui est Dieu et sa créature. Kadosh, ça veut dire loin. Et il exprime la différence, l'abîme inaccessible entre Dieu et moi. La catégorie de transcendance. Il est le Kadosh. Baruch, c'est exactement l'inverse. Le plus près de moi, le dispensateur des bénédictions, immanence. Et l'affirmation monothéiste, c'est de dire que l'un, c'est l'autre. Mais dans ce sens-là, à Kadosh, Baruch, vous voyez, l'accent sur la transcendance, mais l'expression au niveau de l'immanence. Est-ce que ces deux termes, en tout cas en français, sont clairs pour tout le monde? Transcendance, ça veut dire souveraineté inaccessible. Immanence, ça veut dire proximité la plus proche. Et l'affirmation de l'unité, c'est que le Kadosh, c'est le Baruch. Akadosh, Baruch. D'une certaine manière, si vous voulez, il y a là, en termes traditionnels hébraïques, exactement ce que les philosophes appellent le problème de la transcendance et de l'immanence. Comment comprendre que l'inaccessible est le plus accessible et que l'accessible est le plus inaccessible? Est-ce que c'est clair? Et alors nous allons comprendre tout de suite pourquoi. Ici, la Gemara nous demande de mettre l'accent sur la transcendance, mais sans mettre entre parenthèses Limano. Je pense que ça nous permettra de nous situer très précisément par rapport au sentiment religieux chrétien, au sentiment religieux musulman.
On avait dit dans Corée de Roche.
On a expliqué ça dans Corée de Roche. Lorsque j'expérimente le lien de Hakadosh, l'expérience spirituelle est celle de Ira. Lorsque j'expérimente Baruch, l'expérience est celle de Ahava. Vous vous rappelez de ça? Mais voilà, en schématisant beaucoup bien sûr, mais nous voyons qu'il y a en fin de compte deux polarités dans la sensibilité religieuse humaine par rapport à ce monothéisme d'Israël tel qu'elle s'est exprimée chez les goïms, c'est-à-dire chez les musulmans d'un côté, à travers l'islam, chez les chrétiens de l'autre. Pour les chrétiens, l'accent est à un tel point sur l'immanence que la transcendance est évacuée. C'est clair ? Chez les musulmans, c'est l'inverse. L'accent est à un tel point sur la transcendance que l'immanence est évacuée. Alors, vous voyez quel est le principe de la tradition juive ? L'unité des deux, avec un accent sur la transcendance. Parce que l'immanence, comme telle, surtout si elle est exclusive, est dangereuse. Est-ce que c'est clair ? Il y a plus de risques de paganisation dans l'immanence que dans la transcendance. Et vous voyez comment se distribue la problématique du monothéisme par rapport à l'islam ou par rapport à la chrétienté. Le chrétien, finalement, ne perçoit que le caractère immanent, la médiation. La relation à la transcendance, lui est panique, pahad, et comme on le disait, Dieu le Père perdu. Okay. Et vous voyez, c'est dans leur langage. Mais la relation à la transcendance les écrase. Ils ne sont pas reliés au Dieu de la transcendance, mais uniquement à l'immanence. Alors, paganisme. Chez le musulman, la transcendance est pure, mais elle est tellement exclusive et absolue qu'il n'y a plus de lien d'immanence. Et sauf dans certains mystiques soufis, c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi des grands théologiens chrétiens qui ont perçu la dimension de transcendance, mais jamais en termes chrétiens, jamais en termes religieux, toujours en termes philosophiques, et surtout chez les protestants. J'ai remarqué ça. Alors que la tradition juive du monothéisme, enfin, hébraïque, Israël, c'est Echad, ainsi expliqué. Aleph, à travers le Chet, et le Dalet surtout. Dans la catégorie de transcendance, il y a la notion de souveraineté. En tant que Dieu est mon souverain, je perçois Melech, je perçois la transcendance. En tant qu'il est mon créateur comme père, là, Avinu Sheva Shamaim, ça c'est l'immanence. Et nous disons Avinu Sheva Shamaim ou Baaret, les huit. Avinu Malkenu. Et le fait de mettre l'accent sur Melech, la promesse, c'est que la relation sera celle du Av. C'était ça, Marichino Yamavushnota. Je vais essayer d'expliquer rapidement. C'est ceci. Comment expliquer ça? Chaque fois qu'il y a cette promesse que nous serons appelés au temps qui est appelé Olam Shekulo Aroch. Le monde qui sera tout entier, Aroch. Aroch, ça veut dire le contraire de Kater. Dans ce monde-ci, nous sommes Mitzrayim, resserrés, l'angoisse, Kotser Ruach. Je parle un peu par approximation pour faire apparaître l'idée. Dans ce monde-ci, c'est le monde de l'impatience, c'est le Zeiran Pin, c'est les Midot sont courte. Le monde à venir est désigné comme le monde de l'élargissement, de Aroch, Arihanpi. Bon, chacun prend un peu de ce qu'il peut. Hein? Alors, à celui qui est capable de se reconnaître dans la dimension de transcendance qui est celle de ce monde-ci par rapport au monde à venir, est promis la dimension Ça y est, c'est clair ? Bon. C'est-à-dire, une minute, j'ai encore une phrase à ajouter. Si je le reconnais comme Meller, alors il sera Av. Voilà. Le projet du créateur, c'est le Olam Shekulo Arur. Mais pour le mériter, il faut d'abord passer par la dimension de Meller. Malchou. C'est-à-dire que il y a un préalable à Olam Haba qui est Olam Hazé, et dans Olam Hazé apparaît la dimension de rigueur qui nous éprouve et qui nous juge. Et celui qui est authentique par rapport à cette dimension de rigueur de Olam Hazé, à lui est promis la dimension de l'élargissement. Ce que le langage chrétien appelle les béatitudes, mais enfin le mot a pris un tel sens sulpicien, comment il faut dire sulpicien ou sulpicien ? C'est Saint-Sulpice ou Saint-Sulpice ?
Et
ou pour le Shabbat, et dans le temps, oui, dans ce sens-là. Okay. C'est-à-dire, vous voyez, celui qui est dans l'ordre de tel ou tel mérite, alors, déjà, il participe à une dimension de l'être du monde, de l'ordre du monde à venir. Mais j'ai cité cela simplement pour éclairer bien notre problème, que l'accent doit être mis sur le Dalet. Et alors, à condition de ne pas mettre entre parenthèses le fait. Bien, ce que je vous propose, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant le Dalet, les quatre dimensions de l'espace, d'ailleurs qui sont six en réalité, mais enfin ici nous avons quatre. Comment les quatre points cardinaux, si vous voulez. Eh bien, c'est le cadre, la structure du monde. C'est, je cherche un terme plus précis, c'est le cadre, la structure. Mais aidez-moi à trouver un terme plus...
Hein?
Oui, la... Non, pas l'infrastructure, le corps du monde, non. Le cadre du monde. Oui. Alors que le 8, les cieux et la terre, c'est le contenu. Je vais essayer d'expliquer ça comme ça. Si je figure le monde... Comme une sphère, pas un cercle, mais une sphère. Alors, la relation entre le créateur et son monde, elle est de deux dimensions. Memale kol ha'olamot ou mesovev et kol ha'olam. Nous recevons la bracha de l'intérieur et la kedusha de l'extérieur. C'est-à-dire la lumière qui nous fait exister entoure le monde. Mais la lumière qui nous fait vivre, anime le monde. Là, ce sont des choses dont on parle en marchant sur des œufs, à cause précisément de ce que les païens font de ces choses-là. Hein? Mais oui, qu'est-ce qu'on appellera la dimension d'immanence ? Ce qui me vient de Dieu à travers la bracha. La dimension de transcendance, ce qui me vient de Dieu à travers la kedusha. Et donc, l'accent est mis sur la transcendance, les quatre dimensions de l'espace, les coordonnées du monde, si vous voulez, une allusion au cadre à la mode. Mais ne pas négliger l'immanence. Nous aurions une tendance à dire comme l'islam, à cause du paganisme, hein, voir Dieu partout, etc. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mais dire que comme l'islam, c'est plus le judaïsme. Cette dimension-là, elle est cachère, mais il manque l'autre. Dans une autre expérience, nous aurions tendance à dire, comme la chrétienté, mais cette dimension-là toute seule, elle n'est pas cachère. Alors il faut l'autre. J'essaie de situer, si vous voulez, cet enseignement du monothéisme par rapport précisément à ces deux hérésies du judaïsme qui sont d'un côté la transcendance seule et de l'autre côté l'immanence seule. Le musulman parle aussi de la transcendance, mais il parle de l'immanence, mais il ne fait qu'en parler. Le chrétien parle aussi de la transcendance, mais il ne fait qu'en parler. Bon, et ceci dit, il faut nuancer. Et vous trouverez dans le discours chrétien cette dialectique, mais il faut savoir que le chrétien est polarisé comme chrétien que sur l'immanence. Vous trouverez aussi dans le discours musulman cette dialectique, mais il faut savoir que le musulman, comme musulman, n'est polarisé que sur la transcendance. Le musulman est l'homme du sixième jour, le chrétien du huitième, vous rappelez de cela, et le juif est l'homme du septième jour. Vai Kadesh, vai Barer. Mythique. Et probablement ils sont en train de notre temps de se rendre compte qu'ils sont au septième jour. C'est pourquoi ils se préoccupent de problèmes sociaux, historiques, terrestres. Et les musulmans, semble-t-il, sont en train de quitter le sixième et de rentrer dans l'histoire politique. Ils sont en train de quitter le monde du commencement de la fatalité pour entrer dans le monde de l'histoire. Mais tout ceci se fait en chaos, parce que les guides naturels ont été mis de côté, les hommes du septième jour. Alors ils sont rentrés chez eux. Bien. Et je vous propose d'avoir 5 minutes à moins qu'il y ait une question sur le sujet.
J'ai toujours pas compris le rapport avec Dalet. Pourquoi on dit que c'est Dalet qui représente tout ça?
Il s'agit des dimensions qui enveloppent le monde, à l'intérieur desquelles le monde.
Pourquoi c'est Dalet? C'est
l'expression classique qui est employée ici par la Gemara.
Arba,
Ruchot, Shamay. Les quatre dimensions de l'esprit.
Ah oui.
Bien, je vous propose 5 minutes de détente. Il nous reste un point à étudier chez Maïmonide concernant la question des niveaux de la personne. Et nous allons le reprendre d'ailleurs demain. Et lorsque nous commencerons à étudier toute la dialectique de discussion des Chachamim, jusqu'où dans le texte faut-il mettre la Kavana. Nous avons déjà vu par anticipation qu'en fin de compte, il faudrait tout le texte, au moins le premier chapitre, au moins le premier verset, mais dans tous les cas, le mot « Echad » du premier verset. Mais maintenant, nous sommes arrivés à la fin, si vous voulez, de la disposition de la règle. Eh bien, malgré tout, on va reprendre la discussion avec les arguments de chacun pour savoir pourquoi un tel a demandé jusqu'à tel verset, un tel a demandé jusqu'à tel chapitre, etc. Quel est le contenu de ces kavanot? Là apparaîtra de nouveau une autre notion de kavana. Nous en avons déjà appris trois. La kavana ferveur, la kavana intention et la kavana obligation, remplir une obligation. Et puis déjà commence à apparaître une quatrième notion de kavana, la signification de ce à quoi je suis occupé. Eh bien, le problème auquel vous vous êtes touché, c'était la définition des différents niveau d'expression de l'identité de chacun. Le quelqu'un que je le suis totalement au niveau Neshama. Cette Neshama s'exprime essentiellement comme un être de volonté. C'est pourquoi mon être, dans lequel s'exprime mon quelqu'un, mon sujet, est premièrement libre, mais deuxièmement surtout responsable de ses actes. En évaluation d'identité. Et cet être de volonté que je suis, en tant qu'être manifesté, exprimé, dispose de trois véhicules d'expression de relation au monde extérieur et à autrui, qui est la mahashava, la pensée, le dibour, la parole, et le maasé, c'est clair? La raison, c'est la raison pour laquelle toute la Torah s'organisera autour de ces trois dimensions. Les mitzvot sont des mitzvot au niveau de la Mahashava, au niveau du dibour, au niveau du Maaseh. Mahashava essentiellement dans ma relation à Dieu, dibour dans ma relation à autrui, Maaseh dans ma relation à moi-même. Dans d'autres registres, l'accent sera mis de façon plus ou moins nuancée, mais c'est si vous voulez l'essentiel du cadre. Peut-être nous pourrions faire des exercices d'application de cela, le plan des 10 commandements, par exemple, quand nous avons fait le plan du Kriyat Shema. Eh bien, là, la position de la tradition juive, c'est, et là nous retrouvons le grand enseignement historiosophique de Judas Halevi, c'est que l'essentiel de la personne humaine, c'est l'être de volonté. La capacité de vouloir, le raton. Alors que dans la tradition philosophique, je mettais tradition entre 14 guillemets, dans la réflexion philosophique, l'essentiel de la personne humaine, c'est sa pensée, c'est son être d'intelligence, son être de raison. Reprenons la formule fondamentale de Descartes, je pense donc je suis, que suis-je ? Je suis une pensée. Alors que la tradition juive dans son ensemble répondra, je suis une volonté qui est capable de penser, je suis une volonté et c'est pourquoi je suis jugé, et c'est pourquoi il y a une loi. Vous voyez la grande différence. Mais il y a ce cas particulier dans l'histoire de la pensée, qu'on prétend ranger Maïmonide dans la catégorie des philosophes, que pour lui aussi, l'essentiel de l'âme, l'essentiel de la Neshama, l'essentiel du Ani, du moi que je suis, de celui que je suis, du sujet que je suis, serait l'être de pensée. Et là, je voudrais vous montrer dans le texte de Maïmonide que c'est une erreur fondamentale. Peut-être j'aurais besoin de plus d'un quart d'heure, ça fait rien, 20 minutes, allons pas jusqu'à une demi-heure. Dans un traité très important, qui est le Shmona Prakim, il s'appelle Shmona Prakim le Rambam, les 18 chapitres de Rambam, qui est son introduction à son commentaire du Pirkei Avot, du traité de morale de la Mishnah. C'est un traité extrêmement important. Je vous en parle souvent, je suppose, et intentionnellement. Plusieurs équipes sont actuellement à l'œuvre pour essayer de bâtir ce que serait une thèse du schéma de la psychologie selon Maïmonide. À mes connaissances, il me semble que c'est le premier grand traité de psychologie qui ait jamais été écrit dans l'histoire de la conscience. Et Maïmonide avait à peu près 20 ans lorsqu'il a écrit ce traité, c'est une œuvre considérable. Vous voyez qui est Maïmonide. Et là, en particulier, il essaye de nous donner la définition des mécanismes, des structures, des forces, des tendances, des fonctions de la personne humaine en relation avec le problème moral. Et en particulier, très rapidement, il pose la question suivante. Laquelle des fonctions de la personne humaine, laquelle des fonctions du nefesh est justiciable de jugement moral? C'est celle où il y a responsabilité. Mais il ne peut y avoir responsabilité que s'il y a liberté. C'est donc celle où il y a liberté, donc responsabilité. Et il nous dit de façon très claire dans le deuxième chapitre, d'abord dans le premier chapitre, je vais vous indiquer comment dans le langage de son temps, il a exprimé ces différents niveaux, qui sont aussi cinq, comment il les explique. Koach Hazam, la fonction nutritive et sexuelle aussi, ça va ensemble, nutritive à l'échelle de la destinée individuelle, sexuelle à l'échelle de la destinée de l'espèce, mais c'est la même fonction dans le vocabulaire traditionnel, les mêmes termes, Achila, Hana, ceux qui sont déjà au courant de ces textes comprennent à quel point c'est la même fonction. Et qui est au niveau de ce que l'on appelle un peu dans le vocabulaire de la philosophie du Moyen-Âge, l'âme biologique, l'âme végétative. Très bien. Puis, le koach hamargish, les fonctions de sensibilité. Puis, le koach hamadame, les fonctions de représentation, c'est-à-dire depuis la perception jusqu'à l'imagination en passant par la mémoire. Puis, le koach hamitroer. Koach hamitroer, ce sont les fonctions du vouloir et l'ensemble des conduites de la motivation du vouloir. Et enfin, le koach sikhli, le chelek sikhli ou adabri, suivant qu'on trouve ces textes dans le Shmona Prakim ou la manière dont Maïmonide en parle dans le Mishnah, dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Agarés. Le koach sikhli ou le koach adabri. Et déjà, le fait que Maïmonide emploie aussi le koach ad-dabri va nous indiquer de va nous donner des indications importantes. Alors, je récapitule très très schématiquement. Vous voyez que ce n'est pas par hasard qu'il a choisi aussi 5 halakim, korhazam, les fonctions végétatives, mais tous ces mots sont très inapproximatifs, okay, même pas approximatifs. Il faut des heures et des heures de recodage de vocabulaire pour arriver à établir des correspondances, surtout en langage moderne. Mais très grosso modo, d'abord, dans le premier chapitre, il critique la position des philosophes selon laquelle il y aurait plusieurs âmes dans chaque sujet. Et il n'y en a qu'une, parce qu'il n'y en avait pas qu'une, il n'y aurait plus de responsabilité. Lorsque telle fonction agit, l'autre peut plaider l'irresponsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a qu'un effet, mais ce effet a différentes dimensions d'expression. Kohazan, Koha Margish, Koha Ndame, Koha Mitrover, Koha Zerjani. Et alors, dans cette disposition, on aurait tendance à dire, et donc le plus haut niveau pour Maïmonide, c'est bien l'intelligence. Le fait qu'il l'appelle Koha Dabri, la capacité de parler, montre que pour lui, la personne est quelqu'un et n'est pas la pensée impersonnelle. Le sujet qui parle, c'est quelqu'un. Le sujet qui pense, ça peut être la machine. Est-ce que c'est clair? Et déjà là, il y a rupture avec l'univers de la philosophie rationaliste. Déjà là, Maïmonide n'est pas cartésien. Descartes s'est beaucoup basé sur des analyses de Maïmonide, mais enfin, vous savez très bien que Maïmonide était antérieur à Descartes. Ce qui ne n'engage en rien dans la problématique elle-même, puisque « en mugda mumucha » et dans le deuxième chapitre, Maïmonide se pose la question, quel chélek, quel kohar, quelle fonction du nefesh est susceptible de jugement moral, que ses actes seront dits bien ou seront dits mal. Il dit un seul. Un seul, c'est le kohar hamitrover, c'est-à-dire la fonction de volonté. Il est de l'être, du ratson, d'être l'être qui est, dont l'être est d'être libre. Le ratson est infini comme ratson. Le vouloir est infiniment libre. Je peux vouloir tout. Sinon, le vouloir n'est pas. Ça ne veut pas dire que je peux pouvoir tout. Le pouvoir a des limites. Mais vouloir, je peux tout vouloir. La volonté ne peut être qu'infinie. Est-ce que c'est clair? Alors que l'entendement est limité. Alors que le sechel est limité. Je ne peux pas tout connaître. Mais vouloir, il est nécessaire que cette fonction soit infinie, sinon elle n'est pas. Et il y a participation de responsabilité du corps à Margish, du corps à Madame, mais que participation de responsabilité dans le fait où ce sont les véhicules de motivation de la liberté, de l'être libre, qui est la volonté. Je ne serai pas jugé sur le fonctionnement de mes sens. Je ne serai pas jugé sur le fonctionnement de mon imagination. Je serai jugé de la manière dont j'utilise le contenu de mes sens ou le contenu de mon imagination au niveau de l'acte volontaire. Si une idée me traverse, l'image me traverse, pulsion me traverse, eh bien, je n'ai pas de culpabilité tant que je n'ai pas adhéré volontairement. C'est aussi un problème très important. Les psychologues thérapeutes nous diront il faut se laisser traverser par les idées qui nous traversent, s'arranger pour ne pas les provoquer, il y a des affiches qui provoquent des... Mais se laisser traverser, parce que si on bloque, alors il y a blocage. Vous comprenez? Et alors il y a dégâts. Mais il y a très souvent ce risque d'expérimenter une culpabilité du fait d'être traversé par des pulsions. Non, c'est la nature humaine en moi qui dit me traverser. Il n'y a pas de culpabilité. La responsabilité commence quand j'adhère à cela. C'est donc le ratson qui est le sujet moral. C'est clair? Et bien, on y dit très explicitement le paragraphe suivant que je vais vous lire. En ce qui concerne le niveau du cerveau. Vous voyez d'abord la phrase qui formule ce que je viens de dire. Aval ma'alot amidot. Le niveau des vertus ou des défauts, donc ce qui est justiciable du jugement moral, du problème moral, imatsu la chelek amitorer levado, ne se trouveront qu'au niveau, la loi morale ne légifère que à la volonté. Vechelek amargish beze ainyan et nourak shamash la chelek amitorer. Et la sensibilité n'est que le shamash, n'est que le, serviteur de la volonté. Donc, maintenant, en ce qui concerne le chélé, asichli, achélé qu'asichli, la fonction d'intelligence, yeshbo mevucha, il y a perplexité, doute. Ça veut dire que les auteurs ne seront pas d'accord. Ils parlent des philosophes. Abala ni omer, mais moi je dis, chez yesh basé à koar gamken mitzvah va'avera, qu'il peut se trouver dans cette fonction de l'intelligence aussi, mitzvah va'avera, commandement et ou interdiction, ou transgression. Les filles, emunat da'at betela, ou emunat da'at amiti. Selon la croyance, ici je traduis croyance, ça veut dire adhésion, vous savez, vous vous rappelez, la croyance en une connaissance fausse, ou la croyance en une connaissance vraie. C'est-à-dire dans quelle mesure le sechel, le fonctionnement de l'intelligence, la fonction de connaissance est justiciable d'évaluation, de jugement de valeur, au niveau de la foi, au niveau de l'adhésion, au niveau de la émouna. C'est-à-dire, de mon intelligence, je ne peux que dire qu'elle fonctionne bien ou elle fonctionne mal. Il n'y a pas de faute ou de mérite. C'est un niveau de mérite d'être qui n'a rien à voir avec le niveau des mérites d'acte. Okay? Je ne peux que féliciter quelqu'un que son intelligence fonctionne bien, alors il comprend bien. Et il sait vrai. Ou que le plaindre que son intelligence fonctionne mal, alors il sait mal. Mais il n'y a pas condamnation ou il n'y a pas jugement dans le sens juridique. Ça se relie à ce que nous avons appris profondément tout à l'heure. Quelqu'un pense et il croit ce qu'il pense. Bon, il s'est trompé. Il n'est pas irresponsable, il n'est pas libre, parce qu'il pense mal. Vous y êtes? Vous rappelez de ça? Sauf quand il s'est riche, genre. Vous rappelez? C'est là que ça se relie. Mais le rabbin me dit, mais il y a un cas où il y a jugement. C'est dans le cas de Emouna. C'est-à-dire dans le cas où le ratson intervient dans le cercle. C'est clair? Dans le cas où je veux, je préfère vouloir penser comme ça plutôt que comme ça. Là, je dis qui je suis, et pas comment fonctionne mon cerveau, mon intelligence. C'est clair? Là, c'est le « ani » du « ani » qui se révèle. Si j'osais, je dirais comme ça. « Dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu es. » C'est ça. Exactement ça. Vous vous rappelez, je vous ai cité souvent une phrase de mon maître. Il disait « Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas peur de Dieu, toi, il a peur de lui. » Ça veut dire, si quelqu'un me dit, moi j'ai pas peur de Dieu, toi tu peux avoir peur de lui. Parce qu'il a dit qui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était la grande chose que Joseph a commencé par dire à ses frères, lorsqu'ils se sont révélés l'un à l'autre, n'ayez pas peur de moi, moi j'ai peur de Dieu. Vous avez ça dans le tête. Est-ce que c'est clair? Et malheureusement, l'expérience le montre. Si quelqu'un, soi-disant, l'idée avancée, progressiste, après tout, le droit à l'erreur, c'est ça le droit à la différence, etc., etc. Oui, oh, moi, je crois pas en Dieu. Alors, même s'il plaisante, c'est que dedans, il y a une graine d'assassin qui se prépare. Voilà, je vous dis les choses schématiquement, mais comprenez bien que c'est comme ça que c'est. Et en général, ceux qui parlent de la mort de Dieu, et le psychologue montrera très rapidement qu'ils ont eu tendance au suicide. Et toutes ces choses-là. Nous avons donc là un exemple très précis et très clair sur lequel les historiens de Maïmonide passent parce qu'ils ne comprennent rien à rien, Michlal, où Maïmonide dit très clairement que le sujet du sujet, même dans la pensée, c'est l'être de volonté. Parce que quelles sont les pensées qui sont justiciables de Mitzvah ou Avera? Ce sont les émounotes. Quelle différence entre les émounotes et les déhôtes? Les déhôtes, c'est quand relié à la vérité, je vois ou je ne vois pas. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est clair? Mais les émounotes, c'est quand moi je préfère adhérer à cela plutôt qu'à cela. Mais qui préfère là? Ma volonté. c'est-à-dire l'être libre en moi, le moi de moi.
Mais...
Voilà pourquoi, humide, je veux bien préciser ça. Rien à voir entre la position de Maïmonide, qui est celle de la tradition juive, le sujet, c'est ma volonté, c'est le ratson, avec la position des philosophes, le sujet, c'est la volonté. Rien à voir. Je pense que là, c'est très clair.
Toute pensée en elle-même, c'est un choix. Alors, comment...
Dans la mesure où il s'agit de la pensée qui ne pense qu'au niveau de la Emouna. Mais la pensée vraie n'est pas ça. La pensée vraie, c'est pas un choix. La pensée vraie, c'est quand mon intelligence fonctionne exactement et qu'elle me fait connaître le vrai de ma représentation. La pensée vraie, c'est la pensée mathématique. Je n'ai pas à préférer telle racine à tel théorème. Lorsque je traite des réalités de qualité, de valeur, c'est là que je suis libre d'opter pour dire ceci est plutôt vrai que cela. Mais la pensée logique, je ne suis pas libre devant elle. Est-ce que c'est clair? Hein? C'est la pensée spirituelle qui est libre, la pensée morale qui est libre. Parce que c'est là, c'est moi qui décide ce qu'est le bien et le mal. C'est là où j'adhère. Hein? Donc, on va poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une vérité théorique des données de la foi? Oui, mais ça c'est ce que le prophète me révèle. Quand je fonctionne comme prophète, là oui, je vois. Mais si je ne suis pas celui qui voit, si je suis celui... Et je suis celui qui croit. Et alors, ce que je préfère croire dit qui je suis. Est-ce que c'est clair? Encore une fois, on ne jugera pas moralement un mathématicien dans les résultats de ses calculs. On le félicitera ou on le plaindra. On ne le juge pas. On dira, je te félicite d'avoir une pensée en ordre. Ou bien je te plains, ça tourne pas rond. Mais il n'y a pas de jugement moral. Lorsque les résultats mathématiques ont des conséquences pour la sécurité des hommes, etc., ça c'est un autre problème. Qu'est-ce que je vais faire du résultat de mes calculs en sachant que ça va faire une bombe atomique? Est-ce que je le livre ou je ne le livre pas? Ça c'est un autre problème. Vous comprenez? Mais là, ce n'est pas le mathématicien qui juge, c'est l'homme. L'homme qui a fait les mathématiques.
Et la pensée de celui qui voit a donc aussi une qualité mathématique.
D'abord.